Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
À la une, la hausse du prix des transports en commun à Kamandi dans le Lubero Nord Kivu. Situation consécutive à la hausse du prix de carburant. Du coup, les agriculteurs en pleine période de moisson ne savent évacuer leurs produits vers les grands centres de consommation. La population des Djina en Ituri s'oppose à la fermeture de la base militaire de la MONUSCO dans cette entité. Elle dit craindre les attaques des hommes armés en errance dans la zone. Mais pour la MONUSCO, cette base n'a été établie que pour sécuriser les travaux sur le tronçon Fataki-Djina. Toutefois, assure la mission, à chaque fois qu'il y a des alertes sécuritaires à Djina et ses environs, la MONUSCO intervient avec ses patrouilles. Et puis, près de 7000 violations des droits de l'homme documentées dans toute la RDC en 2021. Ceci ressort du rapport publié hier à Kinshasa par le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Pour en parler, nous recevons Abdulaziz Tioy, le directeur de cette institution. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Hausse du prix de transport en commun actuellement dans la région de Kamandi, dans la partie sud du territoire de Lubero. Selon la société civile locale qui le rapporte, cette hausse est consécutive à l'augmentation du prix de carburant. Le litre d'essence coûte actuellement 3500 francs contre 2000 francs il y a peu. Ainsi, une course à moto, principal moyen de transport dans la région, est passée du simple au double selon les destinations. Conséquence, les agriculteurs qui sont en pleine période de moissons ont du mal à faire évacuer leurs produits vers les grands centres de consommation. Sami Sakoumi, président de la société civile de Kamandi, explique la situation au téléphone de Grace Amzati.
Comme le prix Kamandi, j'étais Kamandi là qui coûtait 5000 francs, mais actuellement nous sommes en train de payer 9000 à 10 000 francs. Le prix de la moto quitta Kamandi, j'étais jusqu'à Kirumba, là on payait 3000 francs, mais actuellement nous commençons à payer 6000 à 7 000 francs. Nous avons posé la question aux motards pourquoi ils ont haussé le prix. Ils évoquent les motifs en disant que ces derniers temps il y a augmentation aussi du prix des carburants. Ceux qui sont beaucoup affectés, ce sont les agriculteurs, surtout qui travaillent dans le graben. Ils ont du mal à évacuer leurs produits champêtres. Du graben jusqu'aux grandes agglomérations, par exemple, Kirumba, Kaina, Kanyabayonga. Et surtout que nous sommes dans une période de récolte. Ils sont en train de payer si un sac de haricots de 5 et 10 kilos, ils payent 15 000 francs. Et des Kamandi Lac jusqu'à Kamandi Jit. Encore des Kamandi Jit jusqu'à Kirumba, ils payent 7 000 francs. C'est pourquoi nous appelons notre gouvernement de faire ce qu'il peut faire pour voir comment les prix des carburants peuvent diminuer.
Pour sa part, le président de la FEC Boutembo Lubero, Polycarpe Ndivito, explique cette hausse du prix de carburant dans la région par la rareté de ce produit due à la baisse de la production du pétrole dans une raffinerie du Kenya où s'approvisionnent les pétroliers congolais. Restons dans le Lubero Nord Kivu pour signaler le lancement hier des travaux de construction d'un marché à Moulo, un des quartiers de la commune rurale de Lubero. C'était en présence du bourgmestre de cette commune, du représentant de la MONUSCO et de plusieurs leaders communautaires et de l'église. Ce projet, dont les travaux sont financés par la MONUSCO à près de 90 000 dollars, est le premier d'une série de 4 sur l'ensemble du territoire. Reportage de Grévis Salomon.
Selon Alain Mwongo, point focal de la MONUSCO dans les territoires de Lubero, ces projets sévères qui commencent à Moulo concernant Sikirumba et Kanyabayonga. Pour ces premiers projets, il s'agit de construire des hangars modernes, toilettes, bureaux du comité du marché et d'un éclairage public. Le projet va contribuer à la réintégration socio-économique des ex-combattants, jeunes à risque et femmes vulnérables qui vont exécuter les travaux, mais aussi aider au relèvement économique de la communauté. Pour le président de la société civile, le noyau de Lubero Centre, qui salue la mise en place de ces projets, il s'agit d'une réponse aux besoins des populations. Mumbereva Luire Jackson.
Dans la commune de Lubero, les marchés ne sont pas construits. Les marchandes des produits vivriers étalaient leurs marchandises à même le sol. Il n'y avait aucune latrine ni urinoir pour tout le monde qui fréquentait ces marchés. Comme il pleut abondamment ici à Lubero, c'était toujours une difficulté quant à la recherche d'un abri lorsqu'il pleuvait. Et nous disons merci encore une fois à la MONUSCO qui a répondu à notre besoin.
Joseph Balikwisha, bourgmestre de la commune de Lubero, salue cette action posée par la MONUSCO car la construction de ces différents marchés apporte et plus à l'économie du territoire. Boutembo, Grévis Salumu, Radio Okapi.
Du côté du Sud Kivu, la menace de coupure de la route nationale numéro 5 dans les escarpements de Ngomo risque d'entraîner des conséquences sérieuses si rien n'est fait, s'inquiètent les autorités locales. La réhabilitation de cette route d'intérêt national nécessite des gros moyens sur ce tronçon d'environ 55 km entre Bukavu et Kamanyola, indiquent les mêmes sources. Des détails avec Emmanuel Elameji.
La route nationale numéro 5 qui relie la ville de Bukavu à celle de Lubumbashi est longue d'environ 1356 km. Le tronçon le plus dangereux et le plus menacé se situe entre Bukavu et Kamanyola sur 55 km dans les escarpements d'Engomo. Et pourtant, la RN5 avait été prévue pour réhabilitation dans le programme de 5 chantiers de l'ancien régime. Un financement de plus de 55 millions de dollars avait été retenu pour les bitumages de 55 km entre Bukavu et Kamanyola. À ce jour, seuls 10 km de routes sont asphaltées. La compagnie chinoise dit attendre le décaissement des fonds pour poursuivre avec les travaux. Un jour sans trafic sur la RN5 entre Bukavu et Kamanyola, c'est la ville de Bukavu qui est isolée. Les produits et passagers en provenance des frontières de Kamanyola avec le Rwanda, du Kavimvira avec le Burundi et du port lacustre de Kalundu à Uvira devront transiter par le Rwanda pour revenir à Bukavu. Un manque à gagner inestimable. Emmanuel Elamejou Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Rendons-nous au Congo central. Le trafic sur la rivière Inkissi, dans le territoire de Madimba, a été suspendu depuis 2020 suite à plusieurs préalables. Ceux qui continuent à le faire, c'est dans la clandestinité. Le ministre provincial des Transports et Voies de Communication réagit ainsi à la suite du chavirement d'une pirogue hier jeudi au village Kinsiesi, 8 km du secteur de Ngeba. Un drame dont 4 personnes sont portées disparues. Richie Ndamba Musunda appelle le responsable du bureau du ministère des transports à Kisantu a empêché toute traversée clandestine sur la rivière Inkissi. Nous y reviendrons. Direction l'Ituri, la population de Djina, village située à environ 40 km au nord de Bunia dans le territoire de Djougou, s'oppose à la fermeture de la base militaire de la MONUSCO dans cette entité. Établie le 23 octobre 2021, cette base temporaire avait pour but principal de sécuriser les travaux de réhabilitation de la route comprise entre Fataki et Djina, longue de 45 km. Les populations locales l'ont dit hier au député provincial Lona Mastaki, élu du coin. Elles estiment que ce départ des casques bleus risque de les exposer aux attaques d'hommes armés en errance dans cette zone, alors qu'ils se sentaient en sécurité avec la présence des soldats onusiens. Ainsi, le député provincial Lona Mastaki appelle la MONUSCO à revoir sa décision pour le bien des populations, en particulier des milliers de déplacés hébergés dans les 6 villages du groupement. Lona Mastaki, joint par Martial Kizabiamongo.
La population a reçu, c'est comme un coup de foudre, des messages de départ de la force onusienne de Centre-Djina qui héberge un bon nombre de la population et les déplacés de presque 6 groupements différents, tels que la population du groupement de Rokba, du groupement Beleba, Tolo, Jacon Daura, Rissasi, qui sont des déplacés internes dans le même groupement Jacon Daura. La population sollicite vraiment qu'il y ait encore d'autres troupes qu'on devait maintenir pour sécuriser la population, parce que c'est avec cette force onusienne que la population se s'atteint en sécurité, que la population espérait tant soit peu le retour de la paix.
Pour sa part, la MONUSCO indique qu'avant octobre 2021, il n'y avait pas de base militaire à Djina. Celle-ci n'a été établie que pour sécuriser les travaux de réhabilitation de la portion de route entre Fataki et Djina par les casques bleus népalais. « Nous ne quittons pas la zone », affirme Jean-Toby Okala, responsable de l'information publique de la MONUSCO en Ituri. Il précise qu'il s'agit plutôt d'une relocalisation de la force qui s'installe à Lita pour sécuriser les travaux de réfection de la route entre Katoto et Djili. Toby Okala ajoute que bien avant l'établissement de cette base et chaque fois qu'il y a eu des alertes sécuritaires à Djina et ses environs, la MONUSCO a toujours dépêché sur place une ou plusieurs patrouilles de Bunia, Fataki, Bayo ou d'autres bases militaires dans la région. La MONUSCO va ainsi continuer à intervenir à Djina et dans d'autres localités de Djougou sous la menace des assaillants, conclut Jean-Toby Okala, qui invite la population au calme et à ne pas céder à la peur. Restons en Ituri. 26 000 têtes de bétail ont été volées ces 5 dernières années dans le territoire d'Irumu, principalement par des hommes armés. C'est l'ONG Assiar qui l'a rapporté au cours d'un atelier de 2 jours sur la problématique de vol de bétail au sud d'Irumu, atelier organisé cette semaine à Kaseni, 45 km au sud de Bunia. Selon cette ONG, cette pratique empêche beaucoup de personnes d'investir dans l'élevage qui constitue l'une des principales activités génératrices de revenus en Ituri. Un comité de pilotage a été mis en place avec pour mission de sensibiliser les uns et les autres à lutter contre ce phénomène. Martial Kizabiamungo nous en dit plus.
L'Ituri, dans les années 90 et 2000, était considéré comme un grand centre de production de cheptel. Bunia Viande, c'était la dénomination du chef-lieu de cette province qui était alors un district de l'ancienne province orientale. Avec plus de 40 000 têtes de bêtes, la viande de l'Ituri approvisionnait Kisangani, Beni, Butembo, Kinshasa et d'autres localités. Aujourd'hui, à cause de la persistance de groupes armés, cette richesse semble disparaître. Des vaches sont soit volées, soit tuées par des hommes armes. Pour l'ONG Assiar, cette pratique qui a déjà fait disparaître plus de 26 000 têtes de bétail en espace de 5 ans doit cesser. Eric Mongo, son coordonnateur, propose quelques pistes de solutions pour mettre fin à cette pratique.
Le programme PDDRCS comme objectif d'éradiquer le groupe armé. Nous avons mis en place un comité de pilotage qui va se charger un peu à essayer de mener un travail de plaidoyer. D'abord, plaidoyer auprès des autorités locales, les autorités militaires.
Par peur de groupes armés, plusieurs éleveurs avaient délocalisé leur cheptel vers Iziro et Bouta dans les provinces du Haut et Bazouélé. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Justice au sud Kivu, un militaire de garde à l'auditorat militaire de Bukavu, condamné à 8 ans de prison ferme. Verdict rendu hier soir par le tribunal militaire garnison de Bukavu. Il était poursuivi pour violation des consignes et tentative d'assassinat contre le ministre provincial et porte-parole du gouvernement du sud Kivu. Plus de détails avec Rachel Kiesembangu.
Le militaire Basongo Itongo écope de 8 ans de servitude pénale principale. Il doit également payer 110 000 francs dans un délai de 8 jours comme frais d'instance, mais aussi le dommage intérêt de 5 000 dollars aux parties civiles. Il était poursuivi pour avoir commis la menace d'attentat et violation de consigne en état d'ivresse pendant les heures de service. Les faits qui, relevant à mardi 18 janvier dernier au centre-ville de Bukavu, l'incriminé en armes avait tenté d'attaquer les véhicules du ministre provincial et porte-parole du gouvernement en présence des passants. Le ministre avait porté l'affaire devant les tribunaux militaires qui avaient immédiatement ouvert le procès en flagrance. Dans son jugement rendu hier jeudi, le tribunal militaire de garnison de Bukavu a déclaré que l'acte posé par le militaire Basongo Itongo Papi était bel et bien réfléchi. Les avocats de l'accusé rejettent cette sentence, estimant que l'acte aurait été commis dans un état d'ébriété. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Merci de nous écouter à Kananga. En séjour au Kasaï central, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a visité hier certaines écoles, parmi elles l'école primaire Lunyenga au village Chingana, 45 km de la ville de Kananga. Ici, des salles de classe sont en train d'être construites avec l'appui de l'UNICEF. François Kadima était sur place lors de cette visite.
Ce projet de construction des salles de classe équipées est exécuté par l'ONG Social Development Center, SDC, avec l'appui de l'UNICEF. L'école primaire Lunyenga, parmi celles visitées, sera prête avec de nouvelles infrastructures modernes au mois de février, a indiqué le directeur pays de cette structure. José Oudendaye parle de l'approche mise en marche pour la réussite de ce projet.
Les salles de classe certainement seront équipées en table banc ainsi qu'en tableau et aussi, si possibilité il y aura aussi un petit bureau pour les directeurs. C'était une école qui était pratiquement inexistante du point de vue infrastructure. Puis UNICEF, nous avons pensé y aller avec l'approche systémique communautaire et ça veut dire que la communauté apporte l'essentiel de son pouvoir.
Du côté de l'UNICEF, l'on souhaite voir ces infrastructures aussitôt finies et livrées, être protégées par la communauté. Edouard Beyveder est le représentant de cette agence onusienne en RDC.
Et puis naturellement, après, dans le modèle, c'est que la communauté, le comité, continue à s'assurer que l'école est bien entretenue, qu'il y a un petit trou réparé. La communauté continue à s'engager.
Notons que l'UNICEF compte construire dans la région plus de 400 écoles modernes sur 4 ans. De Kananga, François Kadima, Radio Capi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Burkina Faso. Pour la première fois depuis sa prise de pouvoir le lundi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé au Burkinabé hier soir à la veille d'un sommet extraordinaire de la CDAO consacré à la situation au Burkina Faso. L'officier putschiste qui a renversé le président Roch Marc Christian Kabore a prononcé une allocution retransmise par la télévision nationale. Le chef de la junte a exposé sa priorité, à savoir vaincre le terrorisme. En Grèce, une trentaine d'ONG dénoncent l'absence d'accès à la nourriture pour de nombreux résidents des camps des réfugiés de la partie continentale du pays. En cause, une nouvelle loi en vigueur depuis octobre qui limite l'assistance étatique aux seules personnes dont la demande d'asile est en cours. Les personnes dont la demande a été soit acceptée, soit rejetée sont dorénavant exclues des programmes de soutien alimentaire malgré l'absence fréquente d'alternatives.
L'invité.
Dans son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en RDC, le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme a documenté en 2021 près de 7000 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Et à l'occasion de la publication de ce rapport hier à Kinshasa, Radio Kapi a approché le directeur du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme pour faire le point. Abdulaziz Tioy, notre invité de ce midi, répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Abdulaziz Tioy, bonjour.
Bonjour.
Le Bureau conjoint a publié jeudi 27 janvier le rapport 2021 sur la situation des droits de l'homme en RDC. Quels sont les types de violations et atteintes documentées dans ce rapport?
En 2021, le Bureau a documenté 6989 violations des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, ce qui représente une moyenne de 582 violations par mois. Il s'agit d'une diminution de près de 12% par rapport à l'année 2020, soit une tendance inverse à celle observée l'année précédente, qui avait enregistré une augmentation de 21%. Les types de violations les plus rapportées au cours de l'année écoulée sont les violations du droit à la vie, pour 1335 violations qui ont fait 3012 victimes. Les violations atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Également, les violations et atteintes au droit à l'intégrité physique. Mais aussi les violences sexuelles, y compris celles liées au conflit. Contre 528 femmes, 226 enfants et 8 hommes. Suivent les violations du droit à la propriété. Ensuite, les violations en lien avec l'espace démocratique pour lesquelles nous avons enregistré 472 cas avec un impact négatif de l'état de siège sur l'espace démocratique, évidemment.
Alors, qui sont les auteurs de ces violations et atteintes aux droits de l'homme?
Parmi les auteurs par catégorie, les agents de l'État, évidemment, notamment dans les provinces affectées par les conflits, où nous avons des militaires, les agents de la PNC, de l'ANR et de plus en plus des autorités provinciales. C'est une tendance que j'avais soulignée l'année dernière, mais qui se poursuit et tend de plus en plus à se répéter. Vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes activistes de la société civile, notamment les activistes de la Lucha, qui sont arrêtés, détenus en nombre assez important. Et certains condamnés à des peines assez sévères, ce qui pose un peu problème. Il en va de même aussi pour des activistes en Bandaka, également dans le Sud Kivu et ailleurs. Il y a aussi parmi les auteurs les membres des groupes armés. Les plus importants, comme vous le savez, évidemment, ce sont les Nyatura, suivis des ADF. Les Nyatura posent un sérieux problème, notamment dans le Nord Kivu. Les Nyatura sont suivis des ADF et divers groupes Maïmaï, dont les APCLS, et également les NDC, rénovés, celles qui sont restées sur le terrain aussi, mais également les Maïmaï Mazembe au Nord Kivu. En Ituri, nous avons la CODECO qui pose de sérieux problèmes. Vous avez suivi les attaques répétées contre les camps de déplacés, mais également contre les casques bleus des Nations Unies, mais aussi des attaques répétées qui tendent beaucoup plus à s'étendre à beaucoup de zones. Nous avons aussi le groupe armé Zahir ainsi que les FPIC en Ituri, sans oublier les ADF qui viennent immédiatement après les Nyatura en termes d'atteinte aux droits de l'homme, aussi bien au Nord Kivu qu'en Ituri, ainsi que les Raia Mutomboki dans le Sud Kivu, les Gouminons, les Tuganero, les Maïmaï Malaika, les Maïmaï Yakutumba, au Sud Kivu, et principalement aussi les Maïmaï Apanapale dans le Tanganyika, qui posent de sérieux problèmes à la protection des civils et l'intégrité physique, mais aussi à la vie des paisibles citoyens congolais.
Oui, directeur, vous êtes étendu longuement sur la situation qui prévaut dans les zones en conflit. Qu'est-ce qu'on peut retenir des zones de l'Ouest en termes de violations et atteintes aux droits de l'homme?
Dans les zones qui ne sont pas affectées par les conflits, ce que nous avons le plus noté, ce sont ce qu'on appelle des atteintes atteinte des violations du droit à la liberté et à la sécurité, notamment des arrestations et détentions arbitraires qui, comme vous le savez, pour beaucoup sont liées à l'espace démocratique. Notamment, vous avez des arrestations de membres de la société civile, comme je l'ai indiqué, pour les premières zones affectées par le conflit. Et d'ailleurs, si vous avez bien regardé, il y a une amélioration générale dans les provinces non affectées par le conflit pour ce qui est des droits de l'homme, mais nous avons le Lua là-bas qui sort de l'eau et la province de la Tchopo ainsi que celle du Kwilu où nous avons effectivement noté beaucoup de restrictions et de violations du droit à la liberté et à la sécurité. Il y a eu aussi, je ne peux pas ne pas le souligner, des atteintes graves au droit à la vie suite à un usage excessif de la force par des officiers de maintien de l'ordre, notamment de la paix. C'est quelquefois des militaires. Certains ont fait l'objet évidemment d'une procédure de flagrance, mais cette tendance est très très inquiétante et continue d'attirer l'attention et doit définitivement recevoir une attention et un traitement approprié.
On dit souvent que Kinshasa est le miroir de la RDC. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Kinshasa particulièrement?
À Kinshasa, évidemment, il y a eu des velléités de répression de ces manifestations. Évidemment, je pense que l'autorité a bien compris l'importance d'ouvrir l'espace pour favoriser une expression libre des droits et libertés. Il y va de la paix et de la stabilité sociale. C'est extrêmement important et c'est un indicateur très important pour les autorités. Encore une fois, je renvoie à tout le monde aux engagements pris par le président Tshisekedi. Il est important que les agents de l'État aident et essaient de s'aligner sur ces engagements-là qui ont été pris, en essayant, dans la mesure du possible, de s'assurer effectivement de l'exercice libre des droits et libertés.
Directeur Abdoul Aziz Tchoy, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme était avec Honoré Missenga Kalala. C'est la fin de ce journal, coordonné par Richard Nyokamunga, supervision de Ben Kabamba. Willem Lungamba était à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de nous avoir suivis.